d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Quel plaisir de vous retrouver en direct du lundi au vendredi pour vous donner la parole du nord au sud. Aujourd'hui, les entretiens d'embauche. À l'heure actuelle, c'est vrai que déjà, décrocher un rendez-vous avec un recruteur, c'est une victoire. Donc, il faut partir confiant, mais très bien préparé. Parler de soi, de ses compétences, de son parcours professionnel. Bref, comment convaincre et rassurer un recruteur quand on est soi-même légèrement stressé? On a déjà beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, c'est le moment de nous appeler les voisins pour poser vos questions à nos invités. Pour en parler dans le studio, une femme qui connaît les deux côtés de l'entretien d'embauche. Bonjour Claude Destet.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez été chasseur de tête pendant 10 ans, vous avez aussi travaillé d'ailleurs dans les ressources humaines pour de grandes entreprises. Et puis aujourd'hui vous coachez des cadres que l'on appelle pudiquement en transition professionnelle.
Exactement.
En clair ça veut dire galérer un peu sur le marché de l'emploi, non ?
Galérer, c'est peut-être pas le mot qu'il faut employer parce que je dirais qu'il faut prendre la recherche d'emploi comme une aventure. Parce que si on se dit que ça va être compliqué, bah ça va être vraiment très compliqué.
Voilà, alors une heure d'aventure avec vous. Vous publiez « S'entraîner à l'entretien de recrutement, même à la dernière minute, 60 exercices inédits pour réussir, 60 minutes d'entretien ». Nous sommes également en ligne avec Ida Babella à Londres, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Ida Babella, vous êtes directrice de cabinet du cabinet de recrutement international Combinations, que vous avez fondé, basé à Londres et qui recrute des cadres pour l'Afrique, surtout anglophone, le Ghana, la Tanzanie, le Kenya, mais aussi d'ailleurs le Rwanda. Et vous nous direz d'ailleurs quelles sont les différences culturelles pour l'entretien d'embauche dans les entreprises culturellement plutôt anglo-saxonnes. Et à Dakar, au téléphone avec nous, Ndey Magadiagne, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Ndey, vous êtes manager au bureau Afrique Search de Dakar. Et quant à vous les voisins, vous nous appelez, surtout dès maintenant, n'attendez pas la fin de l'émission pour nous parler de vos expériences, bonnes ou mauvaises, en entretien d'embauche. C'est aussi le moment bien sûr de questionner nos invités. Ils savent quelles sont les erreurs les plus répandues et puis les vraies difficultés aussi pour se vendre, pour parler de ses compétences. C'est quand même l'essentiel. 33 1 84 22 71 71. Tous vos messages également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Allez, quelques petits messages. Florilège de conseils d'ailleurs entre voisins sur notre page Facebook. On a Basse qui est à Dakar et qui nous dit « Il faut se préparer absolument aux entretiens d'embauche en faisant des simulations. Ça permet d'arriver le jour J et d'être zen et naturel. » Je pense que nos invités sont d'accord. Moussa N'Djamena au Tchad nous dit « Pour qu'un entretien d'embauche se passe bien, il faut d'abord arriver à l'heure, suivre les instructions du responsable, ne pas mentir, s'habiller correctement. Il faut également venir préparer, avoir une large connaissance du domaine dans lequel on veut travailler. » Hyacinthe est à Abomey-Calavi au Bénin. « Moi, j'arrive toujours présentable à un entretien d'embauche. Bien habillé, paraître présentable. La Guinéka, qui est à Conakry en Guinée, nous dit qu'il faut rester naturel au maximum. » C'est quand même plus facile à dire qu'à faire. Hein. « Et surtout, il ne faut pas se surestimer ni se sous-estimer. » Toute la difficulté de trouver le juste milieu, non, je pense.
Exactement,
Claude.
Ouais.
Constant, à N'Djamena, au Tchad, les recruteurs sont des argentivores, tout est manigance. D'accord, Ida Babella, à Londres, pour cette pique?
Absolument, non, bien sûr que non. non, les recruteurs ont un but qui est vraiment d'aide et de soutien aux chercheurs d'emploi, et puis ils ont la possibilité, la chance finalement d'avoir une très bonne connaissance des deux, des besoins de l'entreprise et de comment préparer les entretiens à répondre aux besoins de l'entreprise. Donc, on peut les utiliser comme des vraies cartes. Ouais. Dans le cadre de vos recherches d'emploi, absolument.
Et le recruteur est lui-même inquiet à l'idée de la possibilité de se tromper en plus. Hein. Donc,
Absolument, il a sa réputation, de son éthique, de sa capacité à trouver le bon candidat. Donc non, il a absolument aucun intérêt à ne pas soutenir le candidat dans cette démarche. Ouais.
Moi, je dirais même que le chasseur, c'est un ami du candidat.
Le chasseur de tête, c'est un ami du candidat.
Oui, le candidat va pouvoir s'appuyer sur le chasseur pour pouvoir porter sa candidature dans l'entreprise. Il faut vraiment qu'il le sente comme un ami. Alors que souvent, au contraire, les candidats, ils me disent les chasseurs, ils ne veulent pas nous prendre, on n'arrive pas à rentrer en contact avec eux. Mais quand on a un entretien avec un chasseur, c'est vraiment un ami et il faut l'utiliser comme un ami.
Daïma Gadiagne, au bureau Afrique Search, est-ce que réellement les candidats sont si à l'aise que cela avec les recruteurs?
Alors oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit. Il faut arriver préparé. Le recruteur est là en fait pour recruter tout simplement le candidat qu'il faut pour l'entreprise. Donc c'est ça son boulot, c'est son but principal. Après, il faut beaucoup de préparation. Il faut arriver naturel, il faut arriver bien présenté et par la suite être mis à l'aise aussi par le recruteur. C'est très important.
Ah oui,
Encore
faut-il que le recruteur sache mettre à l'aise les candidats. En principe, c'est son métier. Vous nous appelez, puisque nous allons parler pendant trois quarts d'heure de cette préparation aux entretiens d'embauche qui est capitale. Vous nous appelez pour nous parler de vos expériences et pour poser vos questions à nos invités qui sont en studio et au téléphone.
7 milliards de voisins. Pour les voisins et les voisines, c'est tous les jours sur RFI.
Claude Destet, alors quels sont vraiment les facteurs clés du succès d'un entretien d'embauche?
Alors, les facteurs clés de succès, je dirais déjà, c'est une bonne préparation. Alors, on va vous dire préparation, mais comment? Comment, c'est d'abord être clair avec soi-même, être aligné, savoir ce que l'on recherche, premier facteur. Il faut pouvoir défendre le bon projet. Il faut avoir mis à jour, ces zones d'ombre, pour pas finalement tomber dans une chausse-trappe qu'on aurait soi-même ouverte. Donc, être aligné sur soi-même. Deux, avoir intégré ce que c'est qu'un entretien de recrutement. Un entretien de recrutement, c'est pas un monologue. Ça doit être interactif entre le candidat et le recruteur. C'est avoir fait le tour aussi de ces facteurs de différenciation. Qu'est-ce qui me différencie, moi, d'un autre candidat? Et ce qui vous différencie, c'est votre personnalité.
Donc ça, c'est pas facile quand on a 25 ou 30 ans. C'est plus facile quand on se connaît mieux, quand on a plus de bouteilles, non?
Oui, mais on a aussi... votre personnalité, elle va s'être exprimée au travers du choix de vos études, au travers des activités que vous avez pratiquées, au travers des activités dans lesquelles vous vous êtes investi. J'ai dans le livre, là, quelques exercices qui permettent effectivement de se positionner, de trouver les éléments de sa personnalité qu'on va pouvoir mettre en valeur. Ouais. Et je dirais peut-être le plus dur, c'est d'oser parler de sa personnalité en entretien, parce que c'est pas forcément des thématiques qu'on est habitué à parler en entreprise, mais finalement la personnalité, c'est le point sur lequel la différence va être faite. C'est ce qui vous différencie d'un candidat qui va sortir de la même école que vous et qui aura fait les deux, trois mêmes stages que vous. Et tous les chasseurs de tête, d'ailleurs, vous diront qu'à un certain niveau, tous les candidats, ils sont bons. Mais ce qui fait la différence, c'est leur personnalité.
Ouais, pour les départager. Ouais. Ida Babella, donc vous êtes à Londres et directrice du cabinet de recrutement international Combinations, qui recrute pour l'Afrique. Un entretien d'embauche se prépare longuement, minutieusement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde le sait?
Tout le monde l'entend. Maintenant, le mettre en application, c'est autre chose. Je suis tout à fait d'accord avec Claude. La personnalité a une importance absolument prépondérante lorsque vous êtes en entretien, mais dans la préparation, il y a également la compréhension de l'entreprise et de ses besoins. Moi, ce que j'identifie ici, c'est parfois un manque de connaissance et un manque de recherche sur l'entreprise. Et dans les systèmes anglo-saxons, c'est très bête. Tout est écrit presque dans les descriptifs de poste. C'est-à-dire que l'entreprise... donne énormément d'informations sur sa culture, sur son jargon, sur la manière dont elle parle d'elle-même, de ses activités, de ses missions, des missions du poste, bien sûr, et également des compétences clés et essentielles qui sont recherchés pour un poste qui aurait été publié. Donc, une première préparation, c'est comprendre ça déjà. Qu'est-ce que recherche l'entreprise ? Et ensuite, se positionner en se disant, qu'est-ce que moi, j'ai à proposer comme solution ?
Ouais. Et aujourd'hui, on a toutes ces informations qui sont à portée d'Internet, évidemment, hein, de bien comprendre à quoi on postule et dans quel univers on postule.
Alors, effectivement, absolument. C'est se préparer par rapport à l'entreprise. Là, donc, il y a pas mal d'informations qu'on peut trouver sur Internet. Mais également se préparer, ne pas oublier son recruteur. Hein, parce qu'on peut maintenant, il y a LinkedIn, on peut aller googliser son recruteur. Donc, on peut aussi se renseigner sur son recruteur. Et puis, se préparer aussi, préparer son discours. Comment je vais articuler mon discours ?
Oui, c'est ça, parce que Ida Babella, vous dites souvent, les candidats sont préparés, mais pas entraînés.
Absolument. Je pense que l'entraînement est absolument vital, parce que ce qui vous permet vraiment de visualiser pendant l'entretien. C'est-à-dire que phrase par phrase, point par point, vous avez une idée. C'est ça ce que vous avez envie de délivrer. Se positionner sur ce message, ici en Angleterre, on parle beaucoup de ce qu'on appelle le elevator pitch. C'est-à-dire que parlez-moi de vous, vous avez déjà préparé un petit texte de, on va dire, 3-4 lignes, ça ne dure pas plus de 60 secondes en général, qui vous permet de passer en revue l'intégralité de votre expérience, parler de vous, parler de vos passions et créer un impact directement. Se préparer en contenu, c'est également, moi, ce que j'appelle, lorsque je parle à des candidats, de créer un album professionnel. C'est comme ça que je l'appelle. C'est-à-dire que je les invite à, tout comme vous avez un album photo que vous feuilletez avec délectation et satisfaction, vous voyez tous vos plus beaux souvenirs de vacances, il vous faut la même chose pour vos expériences professionnelles. Les entreprises dans lesquelles vous êtes passé, à chaque fois que vous êtes confronté à un nouveau challenge, un nouveau défi que vous avez relevé, notez-le, prenez-en acte, pardon.
Oui,
alors
c'est
que
ça.
Vous avez été dans un événement particulier, vous avez eu à faire face à la gestion de conflits, notez-le, prenez-en acte.
Donc avoir cet album professionnel positif sur l'estime de soi dans la tête bien gravé pour pouvoir en parler facilement.
Oui, en fait, il faut que les choses soient à jour pour pouvoir être bien rangées dans la tête, pour pouvoir les activer au bon moment.
Ouais. Ndeye Magat Diagne, vous êtes en ligne à Dakar. Dites-nous, vous, de votre côté, pour Afrique Search, quelles sont les erreurs de candidats que vous continuez d'observer, qui vous agacent ?
Alors, c'est vrai qu'on recrute effectivement sur des profils de cadre, mais également des profils un peu moins cadre, donc en dessous. Par exemple, des comptables, des commerciaux, des chargés d'achat, des chargés de logistique. Et sur ces profils-là, en général, on retrouve quelques erreurs, comme par exemple le tutoiement directement pendant l'entretien, donc le candidat qui vous tutoie.
Ouais. Mais parce que vous êtes un cabinet candidat de recrutement, donc un intermédiaire avec le recruteur final, peut-être aussi il y a cette familiarité-là, non, avec vous ?
Alors, la familiarité, elle ne doit pas être aussi facile, en fait. Ça, je veux dire, on ne se connaît pas, c'est la première fois qu'on se voit. Pour rester dans le cadre professionnel, parce que quand même, on est dans le cadre professionnel, et l'entretien avec le recruteur est déterminant. Parce qu'au final, c'est nous qui allons présenter une shortlist. Donc, il y a également des types de langage, parce que ça révèle, en fait, une sorte de facilité du candidat à tout de suite se mettre trop peut-être à l'aise.
Oui.
Du coup, ça va faire ressortir des tics de langage, comme des phrases qui se terminent par quoi, tu comprends, de parler Wolof par la suite, tout de suite.
Donc il y a les candidats stressés puis les candidats trop à l'aise finalement hein. c'est ça
exactement. On a les deux.
Bon, vous restez en ligne avec nous, Ndeye Magat Diagne. Bien sûr, vous êtes là aussi pour répondre à des questions d'auditeurs, toutes les trois.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
Nous accueillons un auditeur qui nous appelle de Ouagadougou. Bonjour Richard, comment allez-vous ?
Oui, bonjour Emmanuel Baptiste.
Nous vous écoutons, ça va pas trop stressé là ? Vous n'êtes que dans une émission de radio, pas en entretien d'embauche.
Ok.
On est entre nous les voisins. Alors, dites-nous, on vous écoute.
Voilà, je voudrais savoir comment vaincre le stress lorsqu'on est face à un entretien d'embauche. Et en secondo, je voudrais savoir quelles sont les techniques et les attitudes à avoir pour vraiment réussir un entretien d'embauche.
Oui. Parce que vous, vous êtes particulièrement stressé, Richard, quand vous passez un entretien?
Oui.
Oui. Ouais. Bah, moi, je dirais d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le stress, c'est aussi une réaction normale d'adaptation de l'organisme. Donc,
c'est un facteur de concentration, voilà, d'abord. Hein.
C'est ça. Et puis, le stress, ça peut être positif. C'est un formidable booster de vos capacités intellectuelles, de votre créativité. Un bon acteur, s'il n'a pas un minimum le tract, eh ben, il ne sera pas très, très bon. Hein. Donc, le stress, il faut le mettre à sa juste place par rapport à ça. Et puis aussi, quand vous êtes en entretien, ne pas vous tromper de stress. Vous êtes simplement là pour passer un entretien. Hein, et pas vous faire impressionner par d'autres aspects, etc. Hein. Le stress, moi je dirais, il faut, on peut le combattre en s'entraînant. Hein, et il faut avoir à l'idée l'image des forces de l'ordre, hein, le JIGN. Et ben, il s'entraîne, il a des procédures qu'il applique, mais il applique. En fait, ce qui se passe, il s'entraîne pour des situations qui ne vont jamais se passer. Oui. Parce que il doit gérer l'incertitude. Et en entretien, on gère l'incertitude. Mais le fait de s'être entraîné, d'avoir des procédures, vous allez pouvoir automatiser certaines
choses. Donc s'entraîner avec quelqu'un qui vous entraîne, ça, pas forcément. Pas, tout seul, c'est difficile. Quand même,
déjà,
hein,
avec les 60 exercices, oui, du livre, vous permettre de vous entraîner.
Hein, un message de Souleymane qui est aussi à Ouagadougou. Je vous le lis, Richard, justement, puisque vous posiez la question, vous êtes stressé quand vous passez des entretiens. Souleymane, un compatriote chez vous, nous dit: pour mieux gérer le stress lors d'entretiens d'embauche, il faut se remémorer ses atouts, surtout ceux qui ont un rapport avec le travail qu'on recherche, ceux qui nous flattent, qui nous rendent fiers. Il faut aussi arriver de bonne humeur, afficher un sourire permanent et sincère. Concentrez-vous sur votre joie intérieure, elle chassera votre stress.
Eh bien, il est parfait, ce candidat.
Ils sont bien nos voisins.
Exactement. Et je l'inciterai à se diriger vers des fonctions, finalement, de coach, hein, parce qu'il est, il me semble parfait. Il a intégré toutes les dimensions qu'il faut faire passer dans un entretien. Et quand il dit qu'il faut se remémorer le positif, il y a une chose qu'il faut se souvenir. C'est plus vous envoyez d'ondes positives dans l'entretien, plus votre recruteur, il aura envie de vous recruter et plus finalement vous ferez mouche.
Une question de Mohamed qui est à Moroni, peut-être Ida Babella qui est en ligne à Londres, je vous la pose. Vraiment réponse très courte, mais que répondre à ces deux questions? Présentez-vous, qu'est-ce que vous pouvez apporter à notre entreprise si on vous recrute? C'est vrai que c'est vraiment la question classique, Ida Babella.
Oui, absolument. C'était la question avec des références un peu plus tôt, en parlant de, je pense que chaque professionnel, chaque business, entrepreneur, ou quelque personne que ce soit qui a un talent en particulier à proposer, devrait avoir un court paragraphe, un court argumentaire pour se présenter. Quelque chose de très parlant qui mettra en avant ses compétences, ses savoir-faire et ce qu'il fait. Donc, parlez-moi de vous. Ce que l'entreprise attend, c'est que vous puissiez lui dire, eh bien, écoutez, voilà, je me présente, je suis un tel. J'ai tant d'années d'expérience dans tel domaine de compétences, mes accomplissements clés reposent sur tel pilier, donc vous rentrez un petit peu dans le débat de vos accomplissements. Je me présente aujourd'hui à vous pour telle raison, et après vous terminez avec une petite ouverture en disant que vous êtes absolument ravi de pouvoir présenter votre parcours professionnel face à ce recruteur ce jour-là. Ouais. Je l'ai dit un petit peu vite, mais il faut ordonner vos idées.
Oui, c'est ça, c'est le pitch.
C'est le pitch.
Alors, il ne faut pas avoir l'air de le débiter par cœur, bien sûr, mais surtout se mettre dans la tête du recruteur, et ça, c'est quand même pas évident.
Et il faut que le pitch soit fluide. Ne faites pas des allers-retours spatio-temporels. Hein, il faut simplifier votre parcours parce que les candidats, ils ont souvent tendance à surestimer leur recruteur. Je ne dis pas ça pour Ida et Mangavé, mais en fait, le recruteur, c'est humain.
C'est un homme comme un autre, ou une femme
donc,
comme une autre.
Il ne peut pas mémoriser non plus une tonne d'informations.
Alors, restez avec nous. Bien sûr, on a des témoignages d'auditeurs aussi et des questions au téléphone sur les zones d'ombre, sur les moments les plus difficiles ou délicats de l'entretien d'embauche. On va en parler, notamment aussi de la question du salaire. Vous restez avec nous. On se retrouve juste après le flash. Et vous continuez de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. On se retrouve dans un tout petit peu plus de 3 minutes chez 7 milliards de voisins RFI.
plus les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, nous parlons des entretiens d'embauche, un bon sujet de rentrée. Claude Destet, notre invité en studio, ex-chasseuse de tête, aujourd'hui coach pour cadres en transition professionnelle. Et elle publie un guide très simple pour s'entraîner à l'entretien de recrutement. 60 exercices pour réussir 60 minutes d'entretien. Oh, parfois, les entretiens sont même beaucoup plus courts et donnent l'impression de... On ressort parfois un peu la tête à l'envers, disent certains candidats. Ida Babella est en ligne avec nous à Londres, directrice du cabinet de recrutement international Combinations et qui recrute des cadres pour l'Afrique, surtout anglophone. Et Ndaye Magadiagne du bureau Afrique Search à Dakar. Alors mesdames, oui on a trois femmes effectivement pour chasser les têtes bien faites. Nous donnons la parole à Daoud qui est à N'Djamena en direct, qui nous appelle du Tchad au 33 1 84 22 60 71. Bonjour Daoud. Daoud, êtes-vous
bonjour
en ligne avec nous?
Bonjour à tous les invités.
Oui, bonjour Daoud. Alors, vous avez une question précise concernant les entretiens d'embauche.
Oui, je suis licencié. J'ai fini l'année dernière. À chaque fois que j'ai rencontré les appels d'offres, je sais pas, ils ont besoin d'une expérience allant de 18 mois jusqu'à 5 ans.
Oui. Alors la ligne téléphonique est assez mauvaise, Daoud, mais vous avez une licence en économie, hein, vous avez achevé. Et la question, c'est qu'effectivement, à chaque fois que vous postulez à un emploi, on demande 2 à 3 ans d'expérience. Vous n'avez que 24 ans, donc par définition, vous avez peu d'expérience professionnelle. C'est ce qui vous met en difficulté lors des entretiens d'embauche, c'est bien ça, Daoud ?
C'est bien ça, oui. Mais comment vous m'aidez pour combler cette manque ?
Oui. Alors,
la question effectivement de l'expérience professionnelle. Ben, vous ne pouvez pas vous vieillir, ça serait trop facile si vous pouviez rentrer dans une machine et puis pof, gagner 4 ans d'expérience professionnelle. Je dirais, un point qui est fondamental pour moi, c'est pas vous remettre en cause parce que vous n'y pouvez rien. Hein. Mais c'est super important. Deuxième point, vous dites que vous êtes quand même convoqué aux entretiens. Donc ça, c'est positif. Ça veut dire que votre CV intéresse.
A été choisi voilà. Parmi des dizaines et des dizaines de CV.
Voilà. Hein. Alors après, la troisième question, c'est comment faire la différence? Alors moi, j'aurais tendance à vous dire, quand on a une objection, il faut mieux que l'objection, d'ailleurs, elle sorte en entretien que qu'elle reste dans la tête du recruteur. Donc il faut mieux qu'ils vous disent... Écoutez, je suis un petit peu embêtée par rapport à votre candidature, votre parcours m'intéresse, mais votre expérience professionnelle me semble un peu limitée par rapport au poste. Et là, il faut que vous travailliez l'objection, que vous essayiez de voir pourquoi le fait que vous ayez une expérience modeste va pas être un point positif pour le poste.
À quel type d'emploi vous postulez rapidement, Daoud, en général ?
Bon, en général, les comptables...
Poste de comptable.
Ah oui, alors, par exemple, pour un poste de comptable, le fait de ne pas avoir beaucoup d'expérience, ça va induire que, est-ce que c'est parce que vous craignez, vous proposez des possibilités, est-ce que c'est parce que vous craignez que j'ai une connaissance insuffisante des comptes en comptabilité, ou est-ce que c'est que vous craignez que j'interface de façon un peu délicate avec les clients, est-ce que c'est parce que au sein de l'équipe, vous avez trop de juniors.
Parce qu'en fait, il faut proposer des critiques aux recruteurs, finalement.
Bah, non, mais c'est pas proposer, c'est circonscrire son objection à un domaine particulier. Si c'est simplement parce que il pense que vous avez peut-être pas la maturité nécessaire pour interagir avec les clients, il va se dire il est trop jeune, mais simplement pour ça. Dans mon équipe, j'ai peut-être des seniors qui vont pouvoir interagir avec le client. Hein. Vous réduisez l'objection, parce que si elle reste générale, eh ben, vous êtes scotché sur un truc qui est large. Et En réduisant l'objection, vous réduisez la zone sur laquelle votre recruteur a un doute.
Ouais, Ndaïma Gadiagne, vous avez souvent des candidats qui se heurtent à ce problème-là, hein, leur jeunesse, leur inexpérience. Vous proposez également de renvoyer la question au recruteur lui-même en disant « mais qu'est-ce qui vous gêne tant du fait de mon inexpérience ?»
Alors, effectivement, on peut essayer hein, de renvoyer la question, essayer de combler, en fait, ces faiblesses-là en apportant peut-être ses points forts, en disant qu'on peut se renforcer, qu'on peut se former en interne. Mais toujours est-il que dans la tête du recruteur, on a le client derrière qui est là et qui a donné des critères précis par rapport au candidat qu'il veut. Donc, si vous ne rentrez pas forcément dans ces critères-là parce qu'il vous manque une expérience dans, par exemple, les déclarations de TVA, les déclarations fiscales, et que vous n'avez jamais fait ça, il faut essayer, en fait, de prendre le recruteur comme un conseiller à la fin de l'entretien, de voir avec lui comment vous allez essayer de combler cette faiblesse-là. Soit vous faites une formation, soit vous faites un stage pour un petit peu essayer d'avoir une petite expérience où on va vous montrer comment on fait les déclarations fiscales, les déclarations de TVA, et puis par la suite, lorsque vous
Hésiter à dire au recruteur, est-ce que vous ne pensez pas que je vais pouvoir me former sur le tas, étant donné que je suis très motivée pour ce poste, finalement. C'est
exactement,
ça, tout simplement.
Exactement.
Ou montrer qu'on a déjà acquis par soi-même des domaines extrêmement compliqués et que donc forcément, ça sera peut-être beaucoup plus facile sur cet aspect-là.
Bonjour Patrick, vous êtes à Ottawa, au Canada.
Bonjour Emmanuel. Ma question, c'est que comment ne pas trop impressionner son intervieweur? Parce que des fois, souvent, l'intervieweur va être le super prochain superviseur. Et des fois, on peut l'impressionner trop, c'est-à-dire qu'il se sent menacé. Hein, parce qu'il y a un paradoxe. On vous dit de mettre en avant vos qualités, vos compétences, comment vous pouvez être utile à l'entreprise, et c'est votre superviseur potentiel, l'intervieweur, de se dire, mais celui-là, après quelques temps, il prendra ma place. Mmh. Et ce que je dis, c'est basé sur des expériences de moi, d'autres personnes proches, et j'ai également entendu des superviseurs en activité, faire des confidences là-dessus. Cette personne, ce candidat, il me faisait peur, en quelque sorte, pour mon avenir ici dans l'entreprise. Comment savoir où s'arrêter dans l'étalage
Alors, Patrick, vous posez une très bonne question.
Oui, Patrick, c'est une excellente question. En fait, la question sous-jacente, c'est quelle est la place du recruteur dans l'entretien. Et moi, je vais vous retourner une question. Vous, quand vous êtes en entretien, à combien de temps estimez-vous votre temps de parole?
En pourcentage?
Ouais.
70 à 80%.
Vous parlez 80% du temps?
Oui, c'est ce que je dirais. 70 à 80.
Ouais, 70 à 80. Ouais. Parce que dans un entretien, effectivement, il ne faut pas que le candidat prenne trop de place. Il faut laisser au recruteur s'exprimer. Et ça, c'est extrêmement important pour que la relation se crée entre le recruteur et le recruté. Et alors, généralement, moi, effectivement, je conseille un temps de parole de l'ordre de maximum 70%. Peut-être que c'est les 10%
pour le candidat, ouais. Et 30% de temps de parole, ouais, pour le recruteur.
Ouais. Hein. Exactement.
Donc, peut-être... Patrick parle-t-il un tout petit peu trop?
Exactement.
Ce tout petit peu qui suffirait à créer ce sentiment d'insécurité pour le recruteur. Oui. Ce candidat est trop brillant finalement, ouais. C'est ça?
Trop brillant, voilà.
Bon, Patrick, merci beaucoup de nous avoir appelés.
7 milliards de voisins.
RFI, on est ensemble.
7 milliards de voisins.
Quand on sera 8 milliards, tu vas dire quoi?
J'ai refait le monde avec 7 milliards de voisins.
Je voudrais donner la parole à Ida Babella qui est en ligne à Londres. J'imagine que vous avez des candidats qui ont de très beaux CV, qui se retrouvent parfois paradoxalement en difficulté.
Oui, ça peut tout à fait arriver.
Bah, déjà, on en parlait un petit peu plus tôt, faire une recherche sur le recruteur, c'est quand même intéressant de savoir un petit peu d'où il vient, le parcours qu'il a eu, si c'est possible, du moins avec les réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui, c'est possible de savoir à qui l'on s'adresse, juste pour avoir une petite idée un petit peu de la personne que l'on va avoir en face de soi. C'est pas évident de mesurer son temps de parole, parfois avec le stress, l'excitation, la passion, l'expérience, on est tenté de parler un peu plus longtemps. Ce que je me dis, c'est qu'une astuce qui pourrait être peut-être pas mal, ce serait... toujours redonner la place au recruteur. Parce que je pense que là, c'est une question un petit peu d'ego et de peur. J'ai peur de perdre ma place, donc du coup, je le prends...
Il y a du silence.
Le silence, en entretien d'embauche, un silence.
Ah oui, le silence, c'est ce qui va permettre à votre recruteur de reprendre la parole, de se positionner, et c'est intéressant, parce qu'il va, en parlant, il va donner des indications sur ce que vous allez devoir dire après. Et pendant le silence, et ça vous permet aussi d'oxygéner votre cerveau, super important, d'oxygéner l'ensemble de votre corps pour le stress, et puis de préparer ce que vous allez dire.
Ida Babella, pardonnez-nous, nous vous avons interrompu.
Non, c'est pas grave, c'était intéressant, effectivement. Non, ce que je voulais juste dire par rapport à ce point-là, c'était que parfois en entretien, lorsque vous reposez une question au recruteur qui lui donne un petit peu une longueur d'avance sur sa connaissance de l'entreprise, connaissance des projets à venir, connaissance des besoins de l'entreprise, c'est un petit peu ça le rassure un petit peu dans son poste et dans, on va dire, son ego professionnel. C'est un gros mot, mais c'est un petit peu ça que je ressens dans la question. Ça veut dire que dans l'entretien, faites preuve un petit peu de tact en reposant des questions. Écoutez, vous qui occupez ce poste qui est quand même assez décisif et crucial dans l'organisation, si vous avez des questions à poser, parce qu'il est toujours conseillé d'avoir des questions à poser intelligentes, pertinentes et qui correspondent un petit peu à ce que vous avez comme aspiration carrière dans l'entreprise, posez-les de sorte que vous repositionnez le recruteur dans son plein siège de recruteur dans l'entreprise. Je ne sais pas si c'est clair.
Si, tout à fait. Ida Babella, d'ailleurs, vous travaillez à Londres, vous recrutez pour l'Afrique anglophone. On avait cet auditeur à Ottawa, Patrick, où on sait qu'il y a, dans l'éducation anglo-saxonne, on travaille plus sur la confiance en soi, c'est une culture qui est plus positive que la culture francophone. Est-ce que vous diriez que vous, dans les entretiens d'embauche que vous faites passer, que font passer les directeurs de ressources humaines dans vos entreprises clientes, il y a quelque chose de différent dans l'ambiance d'un entretien d'embauche de culture anglo-saxonne?
Absolument. Je pense que l'une des premières choses, la communication et le rapport à l'autre a une place prépondérante dans le monde de l'entreprise ici en Angleterre. Pour le cas de l'Angleterre, mais on peut effectivement élargir à un contexte anglo-saxon, bien sûr. Il n'est pas du tout anormal ou c'est tout à fait courant de rencontrer des gens qui vont vous inviter à un entretien dans un café, dans un bar, dans un endroit qui n'est absolument pas propice, on pourrait se dire, à un entretien.
Ça peut se faire à Accra, à Dar es Salaam, par exemple, aussi.
Ça dépend des disponibilités. Vous savez, quand vous avez affaire à des gens, par exemple, si vous avez un entretien à passer avec un directeur d'agence qui est très occupé, qui est toujours en mouvement, ça ne va peut-être pas être évident de le trouver effectivement à son bureau. Et il est possible qu'il vous dise, écoutez, je serai à tel endroit, dans tel hôtel, à telle réception, est-ce que je peux en rencontrer le candidat à cet endroit, avec bien évidemment la date et l'heure communiquée. Il n'y a rien de choquant à cela. Nous, je le vois souvent ici. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas effectivement dans un contexte qui est figé, qui est trop académique, et on est dans un contexte où la personnalité doit est mise en avant, finalement. C'est peut-être même un peu un piège, parce que parfois on est tellement à l'aise qu'on en oublie qu'on est dans un contexte d'entretien. Donc le conseil, c'est de toujours garder bien en tête que vous êtes dans un contexte d'entretien, que vous êtes jugé sur vos capacités, vos compétences en adéquation avec le poste ciblé, mais on vous met dans un cadre qui est assez décontracté pour vous amener à justement faire transcender, mettre en surface votre personnalité. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qu'on reconnaît et qu'on retrouve beaucoup dans les contextes anglo-saxons, et on est plus dans les questions qu'on va être posées. Ça peut-être pas, on n'apprend pas des entretiens qui n'ont absolument pas d'importance, pour lesquels on n'apporte pas d'importance au parcours académique, aux formations,
oui,
aux diplômes.
Il y a une grosse différence par rapport à ça, et il y a peut-être aussi deux autres différences que les entretiens en contexte anglo-saxon sont quand même impactés par la législation américaine qui, en termes de toutes les questions concernant pouvant être qualifiée de discriminante, est extrêmement restrictive, ce qui fait que toutes les questions liées à la personnalité, à la vie personnelle du candidat sont totalement proscrites. Et là, le candidat, comme je disais tout à l'heure, la différence, elle se fait sur la personnalité. Donc il ne doit pas attendre que son recruteur lui pose des questions sur sa personnalité. Il doit
sur sa vie privée, parce qu'il n'en a pas le droit.
Il doit amener naturellement sa personnalité dans l'entretien, parce que c'est par sa personnalité qui fera la différence.
Cette milliards de voisins.
c'est sur RFI.
John nous appelle d'Abidjan. Bonjour John.
Bonjour Emmanuel.
Allez-y, on vous écoute John, vous êtes en direct chez 7 milliards de voisins.
Alors moi j'ai fait pas compris qu'un depuis le début de l'année. Il y a deux qui n'ont pas été bons et il y a deux qui sont restés en suspens.
Oui.
Jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore eu de retour des différents recruteurs.
Vous cherchez un emploi de responsable développement commercial, c'est ça?
Oui, c'est exact. Sur la Côte d'Ivoire ou sur l'Afrique de l'Ouest.
Oui. Mmh.
Voilà. Et là, il y a un des entretiens qui m'a beaucoup choqué. Là, ça n'a pas été bon. Je suis allé faire les entretiens au Ghana, je suis revenu et j'ai fait toutes les étapes du cabinet à la directive des ressources humaines.
Oui.
Et apparemment, c'était bon. Il y a même le recruteur qui a mené une enquête de moral écrit sur moi. Il a contacté mon ancien recruteur, des proches. Donc, quand on arrive à ce stade, ça veut dire que le candidat est rempli toutes les conditions.
Ah bah oui.
Seulement, on veut se rassurer qu'il n'y a pas d'antécédent de tout genre. Juste après l'enquête, le cabinet m'envoie un mail pour me dire « Finalement, je n'ai pas été retenu pour le poste parce que je n'ai pas les compétences techniques. » Donc, tout de suite, j'ai répondu au mail, j'ai dit « Mais c'est bizarre. J'ai fait toutes les étapes, on n'a jamais parlé de compétences techniques.
Oui. »
On m'a dit au contraire, c'est bon. Et à chaque fois, j'avançais. Mais à ce stade, on ne parle plus de compétences techniques, c'est plutôt autre chose. Donc, elle m'a dit par mail, elle m'a donné...
Ah, on a un petit problème de ligne, alors vraiment au moment crucial, du suspense de votre récit. Mais moi, je connais un petit peu la suite de l'histoire. On n'a pas de chance avec les lignes téléphoniques aujourd'hui. John, 34 ans, donc à Abidjan, qui postulait pour cet emploi au Ghana, qui passe donc toutes les étapes et finalement se voit dire par le cabinet de recrutement, eh bien non, vous coûtiez trop cher, mais on ne lui a pas dit clairement. Alors, que faut-il se poser comme question quand on est à la place de John ou de tout autre candidat qui va loin dans le processus de recrutement et qui, tout d'un coup, on a l'impression que la raison est fallacieuse ou peut-être que la question du salaire n'a pas été abordée correctement, je ne sais pas. Qu'en pensez-vous?
Alors, deux questions dans la question. Alors, je dirais, sur la première question, c'est ben, pourquoi est-ce que d'avoir en réponse à la fin de parcours, c'est la rémunération qui est trop élevée, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Moi, j'aurais tendance à dire ça peut être vrai, mais aussi la rémunération, c'est une question objective. C'est plus facile pour un recruteur de dire ben, on vous a pas pris parce que votre fourchette de rémunération était un peu élevée. Il faut toujours être assez méfiant, écouter certes les retours des recruteurs pour avancer, mais le recruteur il cherche à se protéger, pas avoir de problème. Donc il y a peut-être autre chose.
Alors,
s'est passé.
D'où ma question à Ndaï Magat. Est-ce que vous, dans le cabinet où vous travaillez à Afrique Search, vous dites toujours la vérité au candidat quand il n'a pas été pris?
Alors, effectivement, dans un premier temps, on énonce aux candidats qui n'ont pas été pris. Alors, s'ils veulent en connaître les raisons, dans ces cas-là, on les appelle, on leur dit, effectivement, qu'ils n'ont pas été pris parce qu'ils sont limités au niveau des compétences managériales ou des compétences techniques ou opérationnelles, c'est la condition de poste, ou bien qu'ils coûtaient trop cher, finalement. Et ce vous coûtez trop cher-là,
oui.
Il faut le comprendre de la façon la suivante. En fait, parfois, on pouvait avoir un niveau de rémunération qui va être un petit peu supérieur aux autres qui ont été shortlistés, par exemple, de 200 000 ou 300 000 francs CFA. Et dans ces cas-là, si à compétence égale, vous arrivez devant l'opérationnel, donc le recruteur en entreprise, et qu'il constate qu'il y a un autre candidat qui a à peu près le même profil que vous, et qui rentrent dans leur budget de rémunération.
Ah oui, évidemment.
Donc, dans ce cas-là,
on peut prendre le candidat le moins cher, à compétence égale. Oui. D'accord.
Donc voilà. Mais nous, en tout cas, en tant que recruteur en cabinet, la question de la rémunération est très importante parce que ça nous permet en fait de faire une première sélection des candidats parce qu'on connaît le budget de l'entreprise. Donc, si vous ne rentrez pas dans la case, on va vous dire pendant l'entretien. On va pas vous donner le salaire qui est proposé, mais on va vous dire que
vous êtes au-dessus de la conquête ou en dessous.
Oui.
Est-ce que vos prétentions sont sujettes à négociation, en fait?
Oui. Est-ce qu'on continue le processus de recrutement ou est-ce qu'on arrête
Exactement.
Là si vos prétentions sont trop élevées? D'accord.
Exactement.
Vous nous appelez, alors je voudrais vous lire un message très rapidement de Souleymane à Ouagadougou qui nous dit « J'ai manqué un poste il y a quelques temps parce que j'avais parlé de mes défauts et pourtant c'est l'employeur qui m'a posé la question. Alors comment parler de ses faiblesses sans être sanctionné? Est-ce que c'est mauvais de montrer ses limites lors d'un entretien ?»
Moi je crois pas du tout, au contraire, ça montre que vous êtes réaliste, que vous avez du recul sur vous. Alors après, vos défauts, il faut, je dirais, les présenter d'une certaine manière. Hein. Si vous parlez que de vos défauts, ça va pas le faire. Mais il faut peut-être circonscrire vos défauts à des contextes particuliers, dire que dans certaines circonstances, vous êtes pas, parfois pas suffisamment comme ci, comme ça, ou vous êtes trop comme ci, comme ça. Et puis dire que vous en avez conscience et que vous travaillez votre défaut et que maintenant vous faites un petit peu différemment.
Oui, je suis timide, mais du coup ça me permet d'être très calme en toutes circonstances, par exemple.
Non, mais je suis timide dans tel type de contexte. Déjà, vous le limitez.
Oui.
Pour nous, les voisins, c'est comme une seconde famille.
Ouais. 7 milliards de voisins.
Cette idée de voisinage, cette idée de proximité.
Tout ça, ce sont les voisins.
C'est vraiment...
Se donner des occasions de parler, de se parler.
Sans se voir forcément, et donc de voyager.
RFI.
Et la planète se parle.
Idriss nous appelle de Bafoussam, au Cameroun. Bonjour Idriss.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez une question simple et ô combien pertinente.
Oui, madame Emmanuel. Ma question, c'est de savoir est-ce qu'il faut dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité lorsqu'on est en entretien d'embauche.
Alors, est-ce qu'il faut dire la vérité? Oui, mais toute la vérité, non. Je dirais, il faut mieux omettre des choses, mais éviter les mensonges. Parce que les mensonges, il y a un moment, le mensonge appelle le mensonge, et à un moment, vous allez vous prendre les pieds dans le tapis, et puis le recruteur va sentir que vous n'êtes pas à l'aise, il va gratter, ouais. et puis ça va porter discrédit sur un petit aspect de votre candidature, et ça va grossir, ça va faire tache d'huile, et ça va porter discrédit à l'ensemble de votre candidature. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, moi, je pense qu'il faut mieux être authentique, parce que plus vous serez authentique, ça veut dire que plus le poste, l'entreprise correspondra à ce que vous êtes, et donc si le poste et l'entreprise correspondent à ce que vous êtes, ça veut dire que plus vous réussirez dans le poste et dans l'entreprise.
Ouais, Idriss a menti pour qu'on le retienne pour un travail de brancardier à l'hôpital, il a menti sur son lieu de résidence en disant qu'il habitait tout près de l'hôpital pour montrer qu'il pouvait être là très rapidement parce que sinon il estime qu'on ne l'aura peut-être pas recruté. Nous prenons un dernier appel. Junior à Kinshasa. Bonjour Junior, soyez le bienvenu.
Oui, oui, bonjour Emmanuel.
Nous vous écoutons.
Oui, j'ai une question. Comment peut-on sortir du lot dans un entretien d'embauche? En groupe.
Les fameux entretiens de groupe qui se font beaucoup aujourd'hui.
Oui.
Vous avez été face à cette situation où vous êtes les uns avec les autres en concurrence?
Oui, j'ai été face à cette situation. C'est pourquoi je vous fais part de ma question.
Oui. Alors, les entretiens de groupe, effectivement, c'est un exercice extrêmement délicat. Deux conseils. Premièrement, il ne faut pas se comparer aux autres. Et ça, c'est un conseil pour tous les... quel que soit l'entretien. Ne jamais vous comparer avec les autres candidats. Hein. Vous êtes un diamant, vous êtes unique, vous n'allez pas vous comparer avec des paires de cultures. Donc, ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, il faut que vous preniez votre place sans écraser les autres. Prendre votre place, c'est apporter, souvent vous avez une résolution de problème qui vous est proposée en groupe, donc c'est apporter une idée un peu différenciante qui va vous permettre de faire la différence par rapport aux autres candidats.
Ouais, et encore une fois, tout se joue dans ces cas-là dans la préparation. Magat, vous êtes toujours en ligne avec nous à Dakar, ça c'est pour vous. Une question d'Omar qui est à Bamako, pardon, et qui nous dit à la fin de l'entretien, lorsque l'employeur nous demande si on a des questions à lui poser. Et c'est vrai qu'en général, ça se passe comme ça. Je ne sais jamais quoi répondre. Est-ce pénalisant?
Alors, ce n'est pas pénalisant parce que, par exemple, lors de la présentation de l'entreprise au départ, on peut vous donner l'opportunité déjà de poser vos questions sur l'entreprise, sur l'environnement de travail, sur l'équipe avec qui vous allez travailler.
Donc finalement, lorsque tout est clair au départ et que l'entretien se passe bien aussi, et donc même pendant l'entretien, vous avez formulé quelques questions par rapport à des explications, à des informations que le recruteur vous donne. Donc à la fin, ce n'est pas du tout mal vu de ne pas poser une question. Alors après, on peut juste peut-être demander quand est-ce qu'on peut espérer avoir un retour de la part du recruteur. Est-ce qu'ils ont déjà vu d'autres candidats? Comment perçoivent-ils sa candidature à lui? Ça, ce sont des questions, par exemple, qu'on peut poser rapidement comme ça à la fin de l'entretien.
Alors, effectivement, s'il y a plein... Le candidat, il a déjà posé pas mal de questions pendant l'entretien, qu'il a pu faire preuve de sa motivation au travers ses questions. Donc, effectivement, il n'y a pas de souci de ne pas poser de questions à la fin de l'entretien. Mais si... le recruteur vous pose la question, c'est peut-être aussi quand même qu'il a envie d'entendre quelque chose, de voir comment vous réagissez par rapport au poste, comment vous réagissez par rapport à ce
c'est
que
le
vous
moment
êtes proposé.
De se montrer intelligent et pertinent.
Exactement.
Mais c'est pas facile parce qu'on est dans l'improvisation, justement, d'où l'intérêt de
se
préparer.
Ça se prépare les questions.
Merci à vous toutes, en tout cas, mesdames, pour vos conseils pertinents. Claude Destet, vous présentez, vous publiez S'entraîner à l'entretien de recrutement, même à la dernière minute, 60 exercices inédits pour réussir 60 minutes d'entretien aux éditions Erol. Merci à vous, Ndaye Magadiane du bureau Afrique Search à Dakar, et merci à Ida Babella en direct de Londres. Demain, 7 milliards de voisins, retour en direct, on parlera des étudiants étrangers en France, précarité, augmentation du coût de la vie, difficulté à se loger. Les étudiants étrangers en France sont-ils vraiment heureux? Selon le baromètre Campus France 2017, la France est la quatrième destination mondiale pour les étudiants étrangers, avec un degré de satisfaction élevé. 92% des étudiants étrangers recommandent la France comme destination d'études. Alors qu'est-ce qui les attire? Comment font-ils aussi pour faire face aux difficultés? Et que fait la France pour améliorer l'accueil de ses étudiants? On parlera notamment des visas annoncés par Emmanuel Macron qui pourraient permettre à de jeunes diplômés étrangers de faire des allers-retours entre la France et leur pays d'origine. On se retrouve demain à la même heure.